Et si on parlait de Saint-Joseph ? Abbé Philippe Baïtia, chancelier et responsable du service de pastoral liturgique et sacramentel du diocèse de Bayonne, au micro d'Alexandra Guerre.
Abbé Philippe Baïtia, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de Saint-Joseph dans l'insertion de Jésus dans la famille de David.
On trouve cette expression notamment dans l'évangile de Matthieu, parce que Saint Matthieu écrit pour des juifs convertis au christianisme, et il leur montre que Jésus accomplit les Écritures, notamment ce qui concerne le Messie, fils de David. Et dans les évangiles, on voit des infirmes, je crois des aveugles, prier le Christ en le qualifiant de fils de David, ou quand Jésus rentre triomphant à Jérusalem, le jour de Rameau, Hosanna au fils de David. Alors, si Jésus est fils de David, nous l'avons déjà souligné, ce n'est pas par génération physique, puisque Joseph n'est pas son géniteur. Mais Joseph fait de Jésus le fils de David en l'adoptant, en l'intégrant dans la famille de David, et ce faisant, se réalisent les promesses que le Seigneur a faites à David.
Ce terme de fils de David nous annonce le règne, un règne qui n'aura pas de fin.
Alors, il faut se référer d'abord aux promesses. Donc, on trouve cela dans le second livre de Samuel au chapitre 7, également dans le premier livre des Chroniques au chapitre 17, dans le psaume 88 et aussi, d'une certaine manière, dans le psaume 144. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Dieu a en fait de sanctuaire une tente mobile depuis l'épopée du désert. Et David se dit que bon, ça c'est dépassé, c'est pas sérieux. David veut construire une maison en dur, un temple à Dieu. Et Dieu va le refuser. Alors, à certains endroits de l'Écriture, on trouve que ceci, que Dieu le refuse, parce que David a du sang sur les mains, il a beaucoup combattu, bon, et que donc la construction du temple sera dévolue à son fils Salomon. Mais Dieu lui dit que c'est lui, le Seigneur, qui va construire une maison à David, mais une maison au sens d'une dynastie. Et dans la promesse, il y a la promesse d'un fils de David auquel Dieu donnera une royauté éternelle. Et le psaume 144 dira « Ton trône est divin, un trône éternel ». Et quand l'ange apparaît à Marie lors de l'Annonciation, il lui fait comprendre que l'enfant qu'elle va porter sera ce fils de David à qui est attribuer un règne éternel.
Donc c'est le mystère de l'incarnation.
C'est le mystère de l'incarnation, effectivement, avec le fait que, ben, quand on dit fils de David, on peut avoir une perspective politique d'une restauration du
royaume d'Israël.
Bon, et je pense que quand les braves gens ont acclamé Jésus le jour de Rameau, c'est un tout petit peu ça qu'ils avaient en ligne de mire. Mais Jésus, devant Pilate, quelques jours après, refuse cela. Il l'a déjà refusé suite à la multiplication des pains, où on nous dit que les gens voulaient le faire roi. Et à Pilate, il dit que son règne n'est pas de ce monde.
Il y a aussi, à travers la figure de Saint-Joseph, l'annonce déjà de la mort et de la résurrection.
Voilà. Le fils de David, on peut rapprocher cela donc de Philippiens 2, que voilà
la kénose
du Christ. On imagine mal ce que ça supposait pour Dieu, pour le fils de Dieu, devenir cette petite chose qu'est l'homme. Voilà, il s'est anéanti.
Dieu l'a exalté.
Il s'est anéanti jusqu'à la mort de la croix, une mort ignominieuse, une mort qui est une malédiction pour les Juifs. et à cause de son obéissance, donc jusqu'à la mort et la mort de la croix, Dieu l'a exalté au-dessus de tout nom.
Est-ce que c'est une royauté telle qu'on l'entend aujourd'hui ?
C'est une royauté, quand on dit que le Christ est Seigneur ou qu'il est roi, c'est une royauté qui apporte la libération personnelle du péché, la libération sociale à travers le royaume. C'est une royauté qui s'étend par l'accueil de la parole, l'accueil de la grâce du Christ, et donc par l'accueil de l'Esprit Saint, voilà, qui va susciter la sainteté, la sanctification, mais aussi le fait qu'on va travailler au royaume de Dieu, dont la préface du Christ-Roi nous dit que c'est un règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d'amour et de paix. Donc une royauté que Jésus partage avec les chrétiens. C'est une royauté de service. Une royauté de sanctification personnelle. Il faut que Dieu règne dans le cœur, dans les mentalités et dans les vies. Et une royauté de service au sens d'un travail pour le monde que Dieu veut, décrit par la préface du Christ-Roi, mais aussi un monde tourné vers Dieu. Et à la fin des temps, il y aura l'extension totale du règne du Christ qui va le remettre à son Père, et Dieu sera tout en tous, nous dit saint Paul.
Cette royauté, elle est inaugurée finalement par la mort et la résurrection du Christ.
Voilà, elle est inaugurée par la mort et la résurrection du Christ. Saint Jean le montre bien, quand Saint Jean nous présente Jésus couronné d'épines, ou que Saint Jean nous présente Jésus élevé sur la croix, élevé non seulement au sens, si j'ose dire, géographique, mais élevé déjà dans la gloire, Saint Jean nous présente cette royauté, mais une royauté d'une vie qui est allée jusqu'au bout du service du Père et du service des hommes.
Chaque personne qui veut entrer dans cette royauté doit donc devenir un homme nouveau.
Voilà. Alors, c'est un second aspect. Donc, c'est la généalogie de Luc au chapitre 3. Alors, la généalogie de Matthieu est descendante d'Abraham, David, Joseph, donc, et Marie, mère de Jésus. Et tandis que celle de Luc est ascendante. On part de Joseph, dont on dit qu'on pensait qu'il était le père adoptif, le père de Jésus, et on remonte, et la généalogie se termine en disant que Jésus est fils d'Adam et fils de Dieu. Non, fils d'Adam, ça veut dire que, Jésus a bien sûr partagé notre humanité, mais qu'il est le nouvel Adam, l'homme nouveau, en définitive.
Cet homme nouveau que Jésus nous appelle, nous aussi, à être des hommes nouveaux.
Il nous appelle à être des hommes nouveaux, de même que, par la désobéissance d'Adam, l'ensemble des hommes a été constitué pécheurs. Par un seul homme, le Christ, nous dira saint Paul, ils sont constitués comme justes, amis de Dieu et fils de Dieu. Adam, le premier Adam, c'est l'entrée du péché dans le monde, la division de l'homme en lui-même avec son époux, son épouse, ou son épouse si c'est une femme, avec la nature, avec les autres hommes, avec Dieu, tandis que le Christ apporte le nouvel homme libéré du péché dans l'alliance et la familiarité avec Dieu, guéri intérieurement. Et donc, quand nous regardons le Christ, et Saint Vatican II le souligne bien, nous voyons ce que c'est qu'être homme selon Dieu et ce que ça implique en fait de vie.
Je ne pensais pas qu'en parlant de Saint Joseph, nous aborderions tous ces aspects de la foi. Et je crois que pour terminer, vous souhaitez nous proposer une prière ?
Alors, ce n'est pas une prière, c'est le texte d'un spirituel luthérien du XVIe siècle, Johann Arndt, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le véritable christianisme », qui était un livre de spiritualité pour les luthériennes durant très longtemps. Et nous pouvons reprendre ce qu'il dit à notre compte. Il nous parle de cette humanité nouvelle que le Christ nous donne. Voilà ce qu'il écrit. Plus le Christ vit dans l'homme, plus la nature humaine est rétablie. Ne serait-ce pas un homme noble, celui en qui le Christ ferait tout, La volonté du Christ serait sa volonté, les pensées du Christ seraient ses pensées, comme le dit saint Paul, nous avons la pensée du Christ, les paroles du Christ seraient ses paroles. La vie du Christ est la vie nouvelle dans l'homme. L'homme nouveau est celui qui vit dans le Christ selon l'Esprit. La douceur du Christ doit être la douceur de l'homme nouveau, son humilité, l'humilité de l'homme nouveau, sa patience, la patience de l'homme nouveau, ainsi de suite. Toute la vie du Christ doit être la vie de l'homme nouveau. Cela signifie que celui-ci est une nouvelle créature et que la noble vie du Christ est en lui, comme le dit saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Celui-là est alors un vrai chrétien, non par le titre et le nom, mais en acte et en vérité. C'est un véritable enfant de Dieu, né de Dieu et du Christ, renouvelé d'un Christ et vivifié par la foi. On pourrait ajouter, bien sûr, ce n'était pas dans les perspectives du XVIe siècle, on pourrait rajouter qu'on est homme nouveau en entrant dans la dynamique de l'engagement du Christ, ce qu'on soulignait tout à l'heure, tant dans son don au Père que dans le service des hommes et dans le service du royaume.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Baïtia, et la prochaine fois, nous parlerons de Saint Joseph, initiateur de Jésus dans la vie des hommes.
Au revoir.
Et si on parlait de Saint Joseph ? Abbé Philippe Baïtia, chancelier et responsable du service de pastoral liturgique et sacramentel du diocèse de Bayonne, au micro d'Alexandra Guerre.